Merci beaucoup tout le monde d'être là avec nous et d'écouter les troisième intervenants successifs. Et je dois d'abord féliciter le public par sa curiosité. Je fais un remerciement général et non exhaustif de tous les organisateurs qui ont eu la merveilleuse idée d'organiser ces colloques. Merci Hervé d'avoir proposé ma participation. Et on va passer directement au vif du sujet. Après les interventions que vous avez entendues, absolument passionnantes, je vais essayer de compléter et vous donner un panorama un tout petit peu différent, un peu plus historique, un peu plus chronologique, pour vous situer dans une des catégories, des multiples catégories que nous avons vues ici, c'est-à-dire les chants ashkénazes, les chants de l'Europe non méditerranéenne, l'Europe du Nord. Et je vais essayer, malgré que ça a été dit pour certains cas, je vais essayer de clarifier. Et vous allez voir apparaître sur l'écran et un petit plan, une petite carte qui nous montre les moments où la culture ashkénaze est née, où la culture ashkénaze s'est concrétisée et dans quelque chose qui va perdurer pendant un millénaire et qui va arriver jusqu'à nos jours. Ça s'appelle la culture ashkénaze. Donc, pour préciser les choses, la tradition musicale liturgique ashkénaze comporte les chants synagogales pratiqués en Europe centrale et en Europe de l'Est. Le mot ashkénaze signifie en hébreu « germanique » et concerne la culture juive qui s'est développée tout au long de la vallée du Rhin, de la Suisse jusqu'au nord de l'Allemagne, en passant par l'est de la France, la Belgique, les Pays-Bas, et ça depuis la fin du premier millénaire, c'est-à-dire les débuts des croisades. Ainsi, suite à diverses vagues d'émigration, notamment pendant le Moyen-Âge, cette culture ashkénaze s'est déplacée vers l'est de l'Europe en adoptant progressivement des caractéristiques proches des cultures slaves environnantes, dont elle s'est naturellement enrichie. La culture ashkénaze actuelle, celle qui est connue par le cinéma, Rabbi Jacob et compagnie, trouve ses origines sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque des grands bouleversements culturels et musicaux se matérialisent dans les communautés juives installées en Europe centrale et orientale. D'un côté, l'apparition et le développement de la mouvance chassidique, un mouvement spirituel tourné vers une libre expression religieuse où l'individu danse, chante, improvise des mélodies sur des onomatopées. Vous avez entendu parler « oi oi oi, dai 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 » et c'est exactement ça. Et ces onomatopées substituent souvent les textes hébraïques des prières ou se juxtapose avec lui. L'épicentre de ces mouvements se situe en Europe de l'Est, principalement en Pologne et en Russie, mais aussi dans les régions attachées à l'Empire austro-hongrois. De l'autre côté, il y a le surgissement du mouvement des Lumières, nommé en allemand le Aufklärung, qui a été appelé en hébreu la Haskalah. Ces mouvements d'un caractère progressiste avaient initialement comme but une intégration harmonieuse et équilibrée du judaïsme dans la société en pleine mutation dans les pays d'Europe occidentale, surtout en France et en Allemagne. Ainsi, la Haskalah a su s'approprier, dans un dessein de rapprochement avec le christianisme environnant, un nombre important d'éléments de la culture européenne, tout en se souciant de ne pas perdre son identité d'origine. Les critiques, comme vous pouvez l'imaginer, ont été nombreuses par rapport à cette attitude, surtout de la part des Juifs de l'Est, plus massivement attachés aux traditions religieuses strictes et conservatrices. Sur le plan musical, ce qui nous intéresse, l'influence du folklore slave a été aussi forte dans les communautés juives de l'Est qu'elle était l'esthétique chrétienne dans la musique synagogale de l'Europe occidentale. Ces deux mouvements, le chassidisme et la Haskalah, bien distincts mais finalement assez complémentaires, l'un plutôt citadin, l'autre davantage campagnard ou montagnard, ont permis de façonner le style musical des offices dans la synagogue ashkénaze en mélangeant les différents composants musicaux de ces milieux où résidaient des populations juives d'un côté les mélodies traditionnelles, ayant traversé les siècles d'exil depuis la dispersion qui a suivi la destruction du second temple de Jérusalem, et de l'autre, celles qui se sont mélangées avec les airs populaires, des différents peuples de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire du folklore. Enfin, les modes et styles musicaux issus de la musique d'église, elle-même influencée au départ par les chants synagogales, jouent un rôle que parfois on oublie. Et de quel côté vient la poule ou l'œuf ? Qu'est-ce qui a fait en premier ? Et puis, à partir du XVIIe siècle, il y a le style musical des airs d'opéra italien qui prend une place très importante dans les chants synagogales ashkénazes, comme ce fut le cas dans la culture musicale européenne tout entière. Les partitions, elles, c'est celles qui nous permettent plus ou moins de savoir comment sonnait la musique autrefois. Dans la musique synagogale, elles datent de la fin du XVIIIe siècle, et tout ce qui est avant, ça reste vraiment des exceptions, des œuvres rares. Ça se limite le plus souvent à des exemples de musique commandées et utilisées pour des occasions exceptionnelles, comme des inaugurations de synagogues, des célébrations des naissances ou des mariages dans les familles aisées, qui commandaient à des compositeurs non-juifs la plupart des fois des œuvres d'occasion, ainsi que d'autres événements toujours à caractère occasionnel. Donc cela ne reflète pas le style du chant synagogal d'usage quotidien, qui est resté longtemps proche des formes plus archaïques, comme celles que vous avez pu entendre tout à l'heure avec M. Amar. Les premières éditions des partitions de musique synagogale à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe montrent un attachement particulier à la restitution des airs plus anciens, dont la mention est faite le plus souvent par les auteurs et éditeurs de ces partitions. On retrouve des mélodies communes chez différents compositeurs de musique synagogale qui sont des airs transmis par voie orale et désormais notés. Puis chaque compositeur l'accommodait plus ou moins à son goût, au goût du jour, et bien sûr il ajoutait sa signature. En dehors de ces références écrites, il est clair que nous ne pouvons pas connaître que très partiellement la musique synagogale ayant précédé le style ashkénaze antérieur au XVIIIe siècle, passé par le filtre du monde chassidique et du style de la musique classique européenne. Donc nous allons nous centrer à présent sur cette tradition précise. On va rappeler brièvement, et le rabbin Jacques Arnold va vous faire un topo bien plus détaillé cet après-midi, le rôle du cantor, du chazan, dans la tradition ashkénaze. Et il faut dire qu'au départ, c'était un simple bédo, c'est-à-dire un gardien de la synagogue, qui, petit à petit, grâce au développement et à l'importance prise par les piyutim, les poèmes chantés, les poèmes mystiques, il prend une qualification de ministre officiant, chanteur, musicien, aussi parfois chef de chœur et, selon sa formation musicale, compositeur de musique synagogale. La tradition juive ashkénaze a mis au centre du déroulement des offices synagogaux cet important personnage en tant qu'intercesseur, en tant que médiateur entre Dieu et les fidèles de sa communauté. Pendant que les rabbins occupaient un rôle de guide spirituel, gérant tous les aspects de la vie religieuse de ses fidèles, les chazans étaient chargés de faire aboutir la prière de sa communauté dans la conviction généralisée que Dieu aime la musique et surtout les belles voix qui savent rendre les prières agréables à ses oreilles. Si l'on consent à l'idée que Dieu a bien des oreilles, en tout cas, les Juifs, attachés à leur tradition religieuse, ont toujours été persuadés que Dieu les écoute et ils voulaient s'assurer que les messages passent le mieux possible. Et puisque la voix chantée est le mode de communication privilégié avec la divinité, l'instrument idéal pour élever les prières communautaires dans la plus grande spiritualité, les chazans entrent souvent en conflit avec les rabbins de sa communauté au niveau de la préférence de ses fidèles. Certains savent bien de quoi je parle. C'est un peu comme la vieille controverse de l'opéra. D'abord la parole ou d'abord la musique? La question est souvent restée ouverte et la réponse reste variable selon les époques et selon les endroits. Ce qui est sûr, c'est que la voix chantée a toujours gardé une importance des premiers plans dans la prière juive et surtout dans les rituels communautaires. Il y a de très nombreux témoignages de voix célèbres qui ont fait l'éloge sans limite de tel ou tel chanteur à telle ou telle époque, à telle ou telle communauté. Mais on ne va pas s'attarder sur les légendes. Je vais vous présenter tout simplement des personnages qui ont marqué de façon forte et définitive l'empreinte de ces traditions musicales. Et ceci s'est passé, comme vous pouvez l'imaginer, surtout dans les grandes villes des capitales des empires d'autrefois. C'est là où on retrouve naturellement les chazanim les plus doués, les plus célébrés de leur temps. Je vais vous présenter donc le premier de ces personnages dans le clip qui va suivre. Voilà, un vieux portrait, comme vous pouvez le constater. Il s'agit d'Israël Lovi, un pionnier de cette nouvelle façon de présenter la liturgie. C'est un Polonais né en 1733. Il a beaucoup voyagé. Il est né à peu près à la même époque que l'apparition du mouvement chassidique. Donc il a voyagé en Allemagne et puis après différentes pérégrinations en tant que chazan dans différentes communautés, il s'est enfin installé à Strasbourg pendant une dizaine d'années avant de finir ses jours à Paris en tant que premier cantor attaché à la première synagogue consistoriale de la capitale. Rappelons ici que les trois consistoires de France, catholiques, protestants, israélites, avaient été créés par Napoléon au début du XIXe siècle. Musicalement très doué, Lovi a appris le violoncelle, le piano, les chants et la composition, abordant très jeune des œuvres de Mozart, Haydn, Cimarosa notamment, dont il défendait le répertoire en chantant les airs d'opéra, mais surtout les oratorios. Vous savez ce que c'est un oratorio ? C'est un opéra sans représentation scénique. Donc un genre qui convient beaucoup mieux au principe éthique d'un juif religieux. Il est raconté dans sa biographie, publiée au milieu du XIXe siècle, que Joseph Haydn, ayant entendu chanter, a voulu que ce soit lui, un juif, qui chante les rôles principaux de son oratorio, la création, Der Schöpfung, dans sa version allemande. Grâce à sa voix et à sa musicalité exceptionnelle, Lovi a pu bénéficier d'autorisations spéciales pour résider dans les grandes villes allemandes interdites de séjour aux juifs, le temps de préparer les exécutions du grand chef-d'œuvre de Haydn, dirigé par le compositeur lui-même. À l'époque où Lovi quitte son activité de chanteur d'oratorio pour s'installer à Strasbourg, vers la fin de la première décennie du XIXe siècle, c'est l'époque où Haydn meurt justement en 1809, les postes de ministre officiant de la première synagogue consistoriale d'Alsace lui est proposé. Donc il fait venir les jeunes musiciens natifs de la région munichoise dans le clip suivant, Samuel Naumburg, qui s'illustrait déjà dès son plus jeune âge en tant que chef de chœur pour former le premier ensemble vocal synagogal permanent à Strasbourg, basé sur le modèle qu'il avait connu et dont il avait participé auparavant à Munich. Comme Lovi, Naumburg quittera Strasbourg après quelques années d'activité à la synagogue de la rue Sainte-Hélène pour s'installer d'abord à Besançon, puis à Paris, en tant que cantor et chef de chœur de la grande synagogue consistoriale de la rue Notre-Dame de Nazareth. C'est à Paris, et grâce au soutien de Jacques Fromental Halévy, le fameux compositeur d'opéra, professeur de composition au Conservatoire de Paris, que Naumburg va pouvoir développer une importante carrière, publiant 4 volumes de musique synagogale et côtoyant les musiciens célèbres de son temps, tels que Rossini, Meyerbeer ou encore Vincent Dindy, qui deviendra par la suite paradoxalement un antisémite notoire. Vers la fin de sa vie, Naumburg s'intéresse particulièrement à la musicologie juive et il écrit quelques articles pionniers dans la matière. Quand on change de portrait, on voit Salomon Zulzer. C'est la grande figure, la grande star de la synagogue à Vienne. Peu après ses 20 ans, doué d'une voix et d'un don musical hors du commun, il est appelé à devenir le plus grand cantor de synagogue de son temps. Dans la capitale autrichienne, il se lie d'amitié avec Franz Schubert et il lui commande une composition pour la synagogue, les psaumes 92 pour chœur, quatuor vocal et bariton solo, partie qu'il a assumée vraisemblablement lui-même. Il passera également des commandes à d'autres célèbres musiciens de son temps, dans tous les cas des non-juifs. Franz Liszt, en écoutant chanter Zulzer, n'hésite pas à écrire les plus grands éloges sur sa musique synagogale et son talent hors du commun. Beethoven, vous connaissez, reçoit aussi une commande pour la synagogue de Vienne, mais trop pris, il décline la proposition à l'un de ses disciples, tout en gardant les partitions proposées par Sulzer comme référence. Le grand Ludwig, qui était sourd, vous le savez, s'en servira d'une partie de ses matériels mélodiques juifs pour l'utiliser notamment dans l'un de ses célèbres quatuors à cordes. Bravo, les images changent automatiquement quand je m'arrête à la bonne phrase. On est maintenant à Berlin. Louis Lewandowski va s'illustrer en tant que chef de chœur en éditant quelques importants volumes de musique chorale pour la synagogue avec plus de 400 œuvres d'une rare originalité et d'une inspiration exceptionnelle. Je les ai comptées. Je ne les ai pas encore toutes dirigées, mais j'espère arriver d'ici quelques années. Il était formé à l'école de Mendelssohn, Félix Mendelssohn, le fameux musicien, notamment parce qu'il a été adopté par l'un des membres de la famille. Et donc, il bénéficie de la collaboration d'un chazan très talentueux de son époque, qui était son collaborateur permanent, le chazan Liechtenstein, qui lui transmet un grand nombre d'airs issus de la tradition musicale juive germanique. Ainsi, Lewandowski harmonise avec un talent hors du commun cet important héritage des mélodies hébraïques, leur donnant une forme nouvelle qui obtiendra une vive adhésion. D'autres noms importants apparaissent progressivement dans toute l'Europe, où émergent un nombre considérable des grandes synagogues. Les cantors des grands talents y brillent, à côté des ensembles vocaux des qualités, dirigés par des musiciens doués et de plus en plus bien formés aux conservatoires et académies de musique des grandes villes. La collaboration étroite entre grands cantors et chefs de chœur, chacun à tour de rôle aussi compositeur de musique pour la synagogue, va permettre le développement brillant qui a connu l'art cantorial de cette fin du XIXe et début du XXe siècle. Les jeunes générations perpétuent cette tradition en apportant des musiques nouvelles et tout en restant attachées au principe de l'esthétique romantique qui a guidé les pionniers du début de ce XIXe siècle. Et puis on arrive au XXe siècle, qui voit apparaître une nouvelle vague des grands cantors, tous attachés au chant traditionnel de la synagogue, qui est de plus en plus imprégné du style des airs d'opéra, et aussi de l'opérette viennoise et de l'opéra comique. Vous allez entendre ce soir, si vous êtes encore là, et des airs dits juifs, mais on se demande si on est à la synagogue ou à l'opéra comique. Les similitudes des genres sont tellement nombreuses que l'on ne sait pas très bien d'où viennent les airs. Et de plus en plus, les synagogues se remplissent de mélomanes, que l'on retrouve également dans les théâtres d'opéra, pour admirer à égalité les grands cantors et leurs chœurs et les grandes stars de l'opéra avec les chefs d'orchestre. Cependant, le courant chassidique continue à guider le style du chant synagogal, tout en se fondant avec le style opératique. Nouveau personnage, Abraham Ber Birnbaum. Je ne savais pas très bien quoi choisir parce qu'il y a un choix tellement énorme. J'étais séduit par son chapeau. Pour que vous voyez un peu l'évolution des tenues vestimentaires de ces personnages importants qui étaient les cantors. Il est un personnage qui montre bien la transition du 19e au 20e siècle. Il est russe d'origine, mais il fait une carrière internationale, comme on dit déjà à l'époque. Il est cantor des synagogues en Moravie, en Hongrie, en Pologne et en Russie. Il transite les divers courants du judaïsme, chantant dans des synagogues des rites divers allant de l'orthodoxe au réformé, mais en gardant toujours son style particulier, mélange des cultures à la fois européennes, progressives et juives traditionnelles. Le portrait suivant, vous l'avez vu tout à l'heure en action. Monsieur Rothen nous a fait profiter d'un formidable film de ce personnage célèbre parmi tous, qui s'appelle Joseph Rosenblatt. Il faut dire ici qu'il a été le contemporain parfait de Enrico Caruso. Vous avez entendu parler. Ils étaient souvent comparés, l'un sur la scène, l'autre et dans le cadre de la synagogue. Mais c'est un grand pionnier de la musique synagogale parce que, entre autres, il a été le premier à enregistrer de la musique synagogale pour les disques et a joué le rôle de son propre métier pour des films de cinéma au grand cri des scandales de certains rabbins et collègues de son temps. Vous voyez, l'histoire se répète tout le temps pareil. Hein. Comme beaucoup de musiciens et artistes de cette époque, Rosenblatt quitte l'Europe pour l'Amérique et il développe l'essentiel de son activité dans le Nouveau Monde. Puis il part en Palestine, qui est à l'époque sous le mandat britannique, à la fin des années 20, pour tourner un film et meurt avant la fin du tournage à Jérusalem. Son fils, basse lyrique, fera une belle carrière de soliste au Metropolitan Opera de New York. Et c'est dans ce même théâtre d'opéra que l'on va retrouver un autre très grand ténor du XXe siècle qui partage sa vie entre la scène et l'hôtel de la synagogue. Il arrive. Ça sera bientôt sur les écrans. Voilà, le ténor Richard Tucker, ou Richard Tucker, comme disent les Américains, dont la statue orne l'entrée de la grande maison d'opéra new-yorkais. Si vous étiez déjà au Metropolitan Opera de New York et vous avez vu une statue, c'est lui, mais avec une tenue de ville, pas avec la tenue de Chazan. La vie musicale des grandes cités représente une certaine forme de mondanité qui attire de nombreux mélomanes, passionnés des grandes voix du monde lyrique, tandis que les fidèles de la synagogue sont attirés par le recueillement et l'émotion produite par les voix qui élèvent les prières hébraïques au nom de toute la communauté pour exprimer la foi et continuer à transmettre de génération en génération les messages spirituels des textes bibliques, des poèmes mystiques et de nombreux hymnes et cantiques venus du fond des temps, traversant l'histoire des hommes attachés à la religion juive à travers les diverses tempêtes, persécutions et péripéties les plus difficiles et les plus dures de toutes les époques, telles que la Shoah au milieu du XXe siècle. Pour conclure, je voudrais souligner le fait que c'est justement dans les quelques périodes d'accalmie, de relative tolérance et de respect que les artistes et musiciens juifs attachés à leurs racines culturelles et religieuses ont su trouver l'inspiration pour créer, transformer, harmoniser et embellir un énorme patrimoine musical hérité d'un passé lointain, apportant à chaque génération leur contribution dans l'enrichissement et l'embellissement du répertoire, de ces répertoires particuliers, riches et émouvants, qui constituent l'art cantorial de la musique synagogale ashkénaze. Les grands cantors de toutes les époques ont su trouver, avec leurs moyens vocaux exceptionnels, l'inspiration et l'émotion nécessaires pour interpréter de manière magistrale les créations de cet art, non sans apporter, chacun à sa manière, leur touche personnelle dans les improvisations très stylées et toujours inspirées de leur tradition héritée et développées selon le respect et l'admiration de leurs prédécesseurs, de leurs maîtres, de ceux qui leur ont légué ces styles particuliers, cet art vocal qui s'est marié musique et élévation spirituelle à travers la prière chantée. Je vous invite maintenant à écouter, pour terminer, un bel exemple de l'art cantorial dans un extrait justement du cantor Richard Tucker, disparu dans les années 70.
Kadoshem bechol derachav v'chosim bechol emosav kov rivad v'shem l'chol kairav l'chavol l'chavol l'chavol
Je viens de m'apercevoir que je suis allé encore plus vite que mon collègue Amar. Et je vous avoue que j'avais un peu peur d'être trop long et que j'essayais de me concentrer sur l'essentiel, mais je suis content parce que maintenant c'est vous qui aurez la parole et j'aurai grand plaisir à essayer de répondre si vous avez des questions sur ces panoramas rapides que je vous ai fait sur l'importance justement de la voix dans la tradition liturgique ashkénaze, comme vous le vous avez pu le constater, est intimement liée à l'évolution de la musique en Europe occidentale, on va dire jusqu'à la Russie, qui ce territoire qui occupait la culture ashkénaze pendant 1000 ans. Et donc, je vous passe la parole, naturellement.
Justement, vous parliez à propos de la Russie. Alors, pendant toute la période de l'Union soviétique, vous m'avez dit hier soir, et est-ce qu'on pourrait développer cet aspect, comment, quelque part, la musique synagogale a survécu à l'intérieur de ce régime.
Oui, ceci est une histoire qui donnerait lieu à un nouveau colloque, c'est-à-dire la musique juive dans les pays de l'ancienne Union soviétique. D'ailleurs, il y a un musicologue français, Franz Lemaire, que je vous recommande très très fortement, qui a écrit un livre absolument extraordinaire que je suis en train de finir, 645 pages, et qui s'appelle « Les destins juifs et la musique ». Je me permets de faire un tout petit peu de publicité. C'est un livre qui est difficile à trouver, il est épuisé. J'ai fait plusieurs librairies pour l'offrir à des amis, et on le trouve que sur Internet, chez l'éditeur Fayard, collection Les Indispensables, c'est le livre noir pour ceux qui ont l'habitude. Et donc, à mon sens, après avoir parcouru un peu l'ensemble des partitions disponibles, parce qu'il faut savoir, comme je disais hier soir, dans un colloque privé que nous avons eu lors d'un dîner avec M. le maire, que la musique juive est un iceberg. On ne voit que la pointe immergée, et en dessous, il y a un volume tellement énorme de musique qu'on ne connaît pas encore, et qu'on attend qu'un jour elle apparaisse. Donc l'Union soviétique, avec tous les pays qu'elle contenait avant la chute du mur, et surtout l'Ukraine, mais aussi la Lituanie, tous les pays baltes et la Biélorussie, et avait une population juive extrêmement importante, quelques millions de personnes réunies dans des communautés, dans des territoire qui était spécialement réservé aux Juifs. Ils n'avaient pas les droits de résider n'importe où, c'était bien ciblé. Et paradoxalement, ou avec une certaine logique, la musique était un exutoire. Elle s'est développée de manière très très forte et avant la révolution soviétique, et ça donnait lieu à la création des centres de musique juive avec une expression des talents dont on a aujourd'hui du mal à imaginer la portée et les génies. Et quand l'Union soviétique a décrété que basta, il n'y a plus de religion, la religion orthodoxe comme la religion catholique, musulmane, juive, etc., ont été mis un stand-by. Et donc elle est restée immergée. Il y a une petite partie qui a pu se sauver de manière tout à fait clandestine en échappant et aux interdictions, qui est parti aux États-Unis avec des gens qui ont pu s'échapper, qui ont rempli les bibliothèques des universités américaines avec, comme je l'appelle, la tête de l'iceberg. Mais on découvre parfois, quand on va faire du tourisme dans les marchés opus, dans les grandes villes ukrainiennes notamment, mais aussi à Moscou, à Saint-Pétersbourg, des vieux livres des musiques juives qui sont des bijoux, qui sont des trésors, qui sont absolument méconnus et qui attendent plusieurs générations de musiciens pour être restitués et connus. Donc le meilleur est à venir.
Oui, merci beaucoup, Hector. Peut-être juste une question, une précision et puis deux petites anecdotes. Par rapport à ce que vous venez de dire, Il faut bien voir que dans cette liturgie ashkénaze a été décimée en grande partie par le nazisme. Donc, il ne faut pas oublier quand même que 6 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et la majorité d'entre eux étaient effectivement des juifs ashkénazes, rien qu'en Pologne, 3 millions de morts. Donc, ces traditions ashkénazes, notamment d'Europe de l'Est, là aussi, bien, on l'a dit, on a vu le tableau, les différences entre les traditions ashkénazes d'Europe de l'Ouest, de l'Est, mais ça vous l'avez dit, avec le côté plus opératique dans l'Europe de l'Ouest, alors qu'il y a un côté plus slave, peut-être dans la raison d'Europe de l'Est. Mais ces traditions ont survécu grâce aux immigrations massives qu'il y a eu aux États-Unis avant la guerre et aussi en Palestine à l'époque. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, le foyer de cette vie ashkénaze est plus outre-Atlantique en fait, que dans la vieille Europe. Je voudrais juste, je parlais d'anecdotes, je vois la photo de Richard Tucker. Elle est
de 33, cette photo. Ouais, donc c'est une photo Richard tout jeune.
Et on disait que Richard Tucker donc, attirait tellement les foules au Metropolitan Opera qu'il n'y avait pas toujours de la place et que pour le coup, les gens se bousculaient à la synagogue pour l'entendre, en plus gratuitement, donc c'était d'autant mieux, même si ce n'était pas dans le même répertoire, tellement il avait une belle voix. Et la deuxième et dernière anecdote, et je cède la parole, ça concerne Rosenblatt, comme vous le savez sans doute. On le voit dans le premier film parlant de tous les temps, The Jazz Singer, de 1924 ou 1925, je ne sais plus, enfin en gros dans cette époque-là, et ça c'est aussi quelque chose d'assez symbolique puisque le premier film parlant met en scène l'histoire justement d'un juif qui essaye de s'émanciper, de chanter comme les minstrels à l'époque noire, donc en se grimant, mais c'est le fils d'un chazan, le fils d'un chantre, et il veut échapper quelque part à la tradition. C'est aussi une façon de montrer comment il s'intègre dans l'Amérique, cette communauté juive qui est désireuse de s'intégrer, en tout cas la deuxième génération. Et il est totalement tiraillé, et il va à la synagogue à un moment, il doit chanter, mais il est tiraillé entre le fait qu'il doit aller écouter son père chanter lors de l'office de Kippour, si je ne m'abuse. Et on a une scène magnifique où on entend le Kol Nidre qui est chanté par Yosele Rosenblatt. Et c'est une scène extraordinaire. Voilà, vous m'excusez, ce n'est pas une question, mais c'est juste deux anecdotes parce que ça complète et votre discours très intéressant.
J'ai beaucoup hésité à ajouter un tas d'anecdotes et je me suis kabbalistiquement limité à 7 pages. Pour ne pas être excessive, mais bon, je suis soulagé de constater que finalement j'étais trop modeste. Donc, je suis ouvert à vos questions.
Je me permettrai de chanter dans ce morceau qui venait d'être entendu. Il y avait trois ou quatre mesures. C'était un c'était le psaume 145. Hein, c'était la fin de Hacheret pour les Slichot.
Oui.
Voilà. Dans ce morceau que Hector a eu l'amabilité de nous présenter, c'est un morceau qui est extrait du psaume 145. Et ce psaume 145 fait l'objet du début de l'office des supplications qu'on est en train de faire très prochainement, de célébrer très prochainement. Et Tucker, dedans, a placé quelques mesures traditionnelles.
Tout à fait.
C'est un montage prodigieux de mettre quelques mesures qui rappellent, et c'est ça, je crois, le rôle du Razan. Je serai amené à en parler tout à l'heure, mais je rebondis sur ce que M. Sabot vient de dire. C'est que le Razan nous fait faire des liens. Il nous fait faire des liens avec le sens du texte, avec l'esprit d'une fête, avec le contexte de ceci ou le contexte de cela. Et c'est tout un art, et c'est cela qui est très révélateur de la liturgie ashkénaze. On aura l'occasion tout à l'heure de l'évoquer. Et je voulais simplement dire, à propos des rabbins, parfois qui se fâchaient avec les officiants, il y avait parfois de bonnes raisons. C'est que la raison simple, c'est que le texte sacré, et je rebondis là aussi sur ce qui a été dit à propos de la cantillation. Un texte, on peut le lire, mais dès qu'il provient de la Bible, On ne peut pas répéter 4 fois le mot ou 6 fois ou faire une vocalise complètement acrobatique. Ça ne marche pas toujours,
oui.
Et ce n'est pas toujours, ça ne sert pas toujours le texte. Au contraire, ça peut même le trahir d'une certaine façon, parce que la langue hébraïque doit être respectée et dans ses accents toniques, ça rejoint la cantillation, et également, si je répète 4 fois un mot, même si c'est un joli mot, pour louer le Seigneur, c'est exagérément, c'est trop exagéré, et ça ne va pas dans le sens de la tradition. Par conséquent, ce que reprochaient les rabbins, dans la plupart des, quand c'était un reproche gentil, hein, c'était de dire, attention, là vous exagérez, et puis en plus, il y a un autre facteur, qui est très important dans les communautés pour ne pas se frictionner avec, faire de friction avec les fidèles et l'officiant, c'est la montre. Nous avons ici le souci de la montre. Et si on fait une prière qui est trop longue, eh bien, il y a une notion hébraïque qui s'appelle le Torah Tzibur, c'est-à-dire ne pas tirer trop sur la corde. Voilà, j'en ai fini.
Et il y avait évidemment des polémiques sans limite. Les chassidim avaient trouvé, et je pense que le rabbin Waknin va parler un peu cet après-midi, ils ont trouvé l'astuce, comme j'ai présenté au début de mon sujet, et ils ont remplacé les mots par des onomatopées. Dans ces moments-là, la musique avait toute sa place, et il n'y avait pas de répétition des mots. Quand on chante « oi, doi, doi, doi », et on respecte le texte, mais, et comme dans tous les cas, il y avait des usages parfois un peu abusifs, où la répétition des mots dans un sens de privilégier la musique devenait, comme tu le dis bien, et quelque chose d'exagéré qui allait à l'encontre et de la pureté du texte. Mais la réalité montre que, et comme on disait encore hier, 2 juifs, 3 opinions, et dans une même congrégation, vous allez trouver une moitié qui est pour, l'autre qui est contre, et entre les deux, ça change et ça s'alterne. Finalement, le juif sort de la synagogue avec l'air qui lui trotte dans la tête, et il dort avec ça, et ça contribue à son élévation spirituelle, tandis que la pensée rabbinique est souvent plus intellectuelle et pense que le texte qui est sacré, qui doit être respecté à la lettre, sans abus et sans exagération. Donc, la polémique est ouverte, a toujours été ouverte, et ça continue, heureusement, parce que je crois que ça nous maintient vivants.
Oui, moi j'avais 2 questions. La première, c'est juste vous demander de nous rappeler à quel moment est apparue la culture askénaze en Europe, parce que je n'ai pas retenu à quel moment elle est apparue en Europe.
Je n'ai pas compris la question.
À quel moment, en fait, cette culture est née, enfin, est apparue en Europe, est arrivée en Europe?
La culture askénaze.
Oui.
Et la culture askénaze, on ne peut pas donner une date, mais les historiens affirment que la culture askénaze, comme je l'avais montré dans mon premier diapo, et c'était à l'époque des croisades, c'est-à-dire qu'à l'époque où Rashi établissait ses yeshivot, ses maisons d'études à Troyes, puis à Worms, en Allemagne, et c'était un moment de consolidation de cette culture askénaze qui avait ses traits particuliers, qui concernait les juifs du nord et de l'est de l'Europe à partir de la vallée du Rhin. Et c'est autour de l'année 1000 et quelques, la carte montrait la situation des juifs en Europe, et en 1096, qui est une date importante parce qu'il y a eu des tueries, des massacres, mais en même temps il y avait des lois, des dispositions qui étaient votées à différents endroits qui favorisaient, qui protégeaient les juifs. Et donc, il est faux de dire que tout le temps, partout, ils étaient persécutés et ou tout le temps, partout, ils étaient tolérés. Selon les régions et selon les époques, c'était assez changeant et il est difficile de raconter l'histoire parce que ça concerne pas seulement une époque, mais aussi une région. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette petite carte où il y avait des flèches qui partaient dans tous les sens. Et à un moment où il s'est passé mal dans un endroit, ça s'est passé bien dans un autre endroit. Ce qui explique beaucoup les vagues d'émigration de juifs dans tous les sens, parce que quand on les chassait d'un endroit, parce qu'on n'avait plus besoin d'eux, ou parce que ça devenait un bouc émissaire très appropriés pour justifier les difficultés politiques, ils allaient à un autre endroit où ils étaient attendus, ils étaient utiles, ils étaient nécessaires. Et donc, la situation était pas chaotique, mais très complexe et très diverse. C'est pour ça qu'on situe approximativement au début du deuxième millénaire la consolidation de la culture ashkénaze qui a perduré et jusqu'à nos jours, et notamment par l'établissement de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la langue yiddish. Et la langue yiddish, qui est une des trois langues issues de la vallée du Rhin, il y a les Hochdeutsch, les Yiddish et l'Alsacien, qui ont la même racine, qui sont des langues qui sont parlées jusqu'à aujourd'hui. Elles sont différentes, mais elles apparaissent à ce moment-là, et tout au long de la vallée du Rhin. Et les expulsions qui vont suivre à partir de cette période de croisade vers l'Est, parce que les rois d'Angleterre, les rois de France, en Espagne plus tard, l'Inquisition et Portugal, etc., etc., vont chasser progressivement les Juifs et de l'Europe occidentale vers l'Est. Et donc cette culture ashkénaze, qui veut dire germanique, va se déplacer en adoptant, comme je le disais au début de ma présentation, des traits, des caractéristiques slaves, polonaises, russes, roumaines, etc., etc. Et le yiddish est le reflet parfait de cette évolution des choses, parce que, comme vous le savez, les langues judéo-européennes comportent des mots en hébreu et des mots issus des français, de l'allemand, du russe, des polonais, etc., etc. Et donc, tous ces mélanges qui correspondent justement à la diversité qui a été montrée par M. Amar tout à l'heure est tout à fait en phase avec la culture ashkénaze, qui n'est pas une culture, mais une diversité des cultures. Vous savez, il y a les ashkénazes de l'Ouest, qu'on les appelle les yekes, c'est les Allemands qui sont stricts, qui sont ordonnés, qui sont ponctuels, qui sont à l'heure, et les ashkénazes de l'Est, qui sont un peu plus sfardes. On les appelle sfardes parce qu'il y a eu et une influence de l'émigration après l'Inquisition, la culture séfarade, et les Sfardes a pénétré la culture ashkénaze du côté de la Pologne et de la Russie, et donc c'est complètement différent. Et les uns disent par exemple au au, et les autres disent oi oi. Et ça montre un tout petit peu dans la musique, dans la langue et dans la façon de prononcer l'hébreu aussi, et le yiddish, parce que vous avez des yiddish lituaniens et les yiddish galiciens de Pologne, qui on dirait que c'est des langues différentes, et pourtant c'est la même langue, écrite pareil, mais prononcée différemment. Donc c'est une diversité complexe, et la seule manière de la comprendre un peu mieux, c'est de se plonger dedans, et on sent que l'eau est humide quand on est dans la piscine.
J'avais une autre question, mais je ne sais pas si j'ai le temps de la poser. Si. La question que j'avais à poser, c'était un peu en lien avec aussi l'autre intervention précédente, quand on a fait le parallèle avec les neumes dans le chant grégorien. Au XIe et au début XIIe siècle, il y avait quand même des échanges intellectuels importants entre les clercs chrétiens, au moins dans le haut clergé, et avec les rabbins, notamment autour de Rashi. Et je voulais savoir s'il y a eu des études de fait au niveau peut-être d'influence entre le chant juif et puis le chant grégorien. Est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens-là, ou est-ce qu'on a quelques informations?
Il y a effectivement des études qui ont été faites, mais les musicologues continuent à se disputer. Ils ne sont toujours pas d'accord. Et il y a une tendance qui affirme qu'effectivement, les chants de l'Église, les chants grégoriens notamment, a été complètement influencé par le chant synagogal, qui était l'un des seuls repères qu'avait l'Église catholique de l'époque pour constituer un corpus de chants. Parce que chez les Romains, on ne trouvait pas de la musique sacrée, on trouvait de la musique païenne, on trouvait de la musique militaire, on trouvait de la musique, dépourvue de spiritualité. Donc il y a toute un courant de musicologues qui affirme sans hésitation que le chant grégorien est directement issu du chant de l'Église. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant qui a été fait par un musicologue américain d'origine viennoise qui s'appelle Eric Werner, où il montre les passerelles entre la musique de la synagogue et la musique d'Église. Et parce qu'il a retrouvé des partitions avec la même mélodie, un texte latin et un texte hébraïque. Et donc, il y a eu une période où vraisemblablement, les musiques étaient aussi bien à l'église qu'à la synagogue. Les uns chantaient en latin, les autres chantaient en hébreu. Donc, c'est comme l'œuf et la poule, hein. Qui est venu en premier ? C'est toujours une bonne question. Mais je vois que vous avez tout compris. Il y a un monsieur là-bas qui lève la main.
Vous avez dit, à un moment donné, assez récemment, je crois bien, des œuvres ont été commandées à des non, j'ose pas dire juifs, à d'autres personnes. Pouvez-vous développer ?
Bien sûr. Et à Vienne, à l'époque, qui était la capitale de l'un des plus grands empires européens, et suite à la Révolution française qui accordait aux Juifs les droits de la citoyenneté, avec la création du consistoire israélite de France, créé par Napoléon, et petit à petit, les autres monarches ont suivi l'exemple en augmentant les numerus clausus, c'est-à-dire en acceptant dans les grandes villes où, depuis des siècles, la présence des Juifs avait été interdite, ils ont autorisé d'abord aux notables, aux gens qui étaient les plus fortunés, qui étaient, on va dire, utiles à la cause de l'État, et à s'installer dans les grandes capitales. Donc, quand Zulzer, qui venait de Hönems, un petit village dans les Tyrol, près de la Suisse, et il a été engagé comme premier cantor, premier chazan de la synagogue de Vienne, il s'est retrouvé dans une sorte de désert où il était pratiquement tout seul à développer quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que, d'après les chroniques de l'époque, l'office était fait de manière tout à fait désordonnée, tout à fait arbitraire, où chacun chantait les prières à sa manière, on s'est disputé, il y avait ceux qui voulaient faire telle ou telle mélodie, et il y avait un tout petit peu de désordre. Donc, grâce à l'appui du rabbin qui soutenait l'action des Zulzer, on lui a demandé de mettre un peu d'ordre et d'instituer un office, un rituel qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui les rituels de Vienne, Nussach Vienne. Et il a donné de l'ordre un tout petit peu inspiré par l'ordre qui avait été institué par les liturgies catholiques. Et comme lui-même était compositeur, il écrit un certain nombre de choses, mais la demande était tellement forte et la volonté aussi des rapprochements et des fraternités avec les communautés voisines, les protestants, mais surtout les catholiques à Vienne qui étaient très catholiques. Et il a fait appel au maître des chapelles de la cathédrale, à des musiciens de son entourage viennois, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de musiciens juifs disponibles pour pouvoir constituer le corpus. C'est comme ça que dans les livres Shir Tzion, les chants de Sion, qui a été édité à partir de 1840, et on trouve, en dehors des compositions de Zulzer lui-même, et une quantité assez importante des compositions des non-juifs qui ont écrit à la demande de Zulzer, qui les a instruits, qui les a donné les éléments nécessaires pour écrire dans cette esthétique. La situation va changer de façon assez importante à Paris. En France, Samuel Nombourg, quand il commence son œuvre de diffusion, il le fait presque à la même époque, quelques années auparavant. La première édition de Nombourg date de 1847. Et quand il publie ses derniers ouvrages, il fait appel à un certain nombre de musiciens juifs à Paris, parce que Paris a été le coup d'envoi, le modèle de l'émancipation des juifs en Europe. Et donc, Nombourg a des conditions plus favorables réunies pour faire appel à Valentin Alquin. J'étais étonné d'écouter le nom de Valentin Alquin parmi les gens qui ont été tués. C'est un homonyme peut-être, non ? Monsieur Hervé Rotten a peut-être entendu, dans la liste des noms que vous avez cités ce matin, il y avait Valentin Alquin. Charles Valentin, il s'appelait. Donc,
Charles Alquin et Salomon Alquin.
D'accord, j'avais fait là. Et donc, il y avait des musiciens qui avaient été formés dans le Conservatoire de Paris, des musiciens qui sont devenus très célèbres à l'époque, comme Alcan, Léonce Cohen et plus tard Samuel David. Donc, il y avait un vivier des musiciens juifs à Paris qu'il n'y avait pas à Vienne quelques années auparavant. Et ceci explique cela. Et d'ailleurs, Zulzer s'est attiré les plus grandes critiques de la part des juifs plus conservateurs de qu'est-ce que c'est que cette musique d'église chantée en hébreu. Et après, à Berlin, il s'est passé le contraire. C'est-à-dire que Louis Lewandowski, qui était un tout petit peu mégalomane, hein, on va le dire, et il a fait tout son possible pour écarter la concurrence, parce que c'était le grand maître de la musique synagogale à Berlin. Et lui, il a commencé à écrire, parce que c'était la tendance de l'époque, les psaumes et les prières hébraïques en allemand. C'est-à-dire qu'on allait à la synagogue et on écoutait une sanctification, la Kedusha. La moitié était chantée en allemand, la moitié était chantée en hébreu. Et donc ça, ça fait les grands chocs parce qu'on n'avait jamais entendu ça auparavant. Et donc, vous voyez, les tendances, les disputes, les volontés de, je ne dirais pas d'assimilation, mais d'intégration à la société environnante étaient tellement fortes que parfois, c'est parti dans des directions un peu extrêmes. Qui se sont par la suite rejoints dans une sorte de juste milieu, si le juste milieu existe. Mais le résultat, c'est que vous avez tous les cas de figure possibles et imaginables. Et je ne vous parle pas des Américains du XXe siècle, parce que ça, c'est Hollywood à la synagogue, avec des musiques qui rappellent et les pubs de télé, le piano bar et... Enfin, la culture américaine, vous connaissez un tout petit peu. La synagogue n'a pas échappé à ses influences. Mais l'Amérique, c'est comme le judaïsme, elle est tellement diverse, tellement plurielle et multiple qu'on trouve vraiment de tout. Et notamment une culture ashkénaze très très forte qui a été conservée, qui a été développée et qui encore aujourd'hui permet d'entendre et de ces musiques magnifiques. C'était, si vous voulez, et comme on dit aujourd'hui en termes informatiques, la sauvegarde de la musique juive. Et qui a survécu en grande partie, je répète, la tête de l'iceberg grâce au travail musicologique des Américains. Et je profite pour compléter un peu le panorama pour vous faire part d'un festival très important qui a lieu depuis quelques années à Berlin. La ville de Berlin a découvert il y a quelques années qu'ils avaient un musicien célèbre appelé Louis Lewandowski et ils ont, avec la municipalité et un ensemble des mécènes du domaine privé, ont décidé de créer un grand festival international depuis 4 ans pour inviter des ensembles et des chanteurs de musique juive du monde entier. J'ai eu le privilège de représenter la France il y a 4 ans avec mon ensemble strasbourgeois, les Polyphonies Hébraïques, et dont vous trouverez un beau disque à la sortie. Les Américains étaient invités. Au départ, ils ne voulaient pas y aller parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'Américains qui voient l'Europe de loin comme le continent des conflits, de la Shoah. Il y a beaucoup d'Américains qui ne veulent pas mettre les pieds en Allemagne. Et donc, on les a tellement invités, on a tellement insisté, notamment auprès de l'Université de Boston, où il y a les plus grands spécialistes au monde de la musique juive, et qu'ils sont venus. Et ils ont été tellement surpris par l'accueil chaleureux et bienveillant des Allemands, parce que je me permets de signaler que l'organisateur principal de ces festivals n'est pas juif. Mais par sympathie, par solidarité et par prise de conscience de la richesse de ces patrimoines, ce festival aura lieu au mois de décembre dans sa 4e édition et ils ont fait une sorte de convention, de collaboration permanente avec les universités américaines pour faire connaître les œuvres justement qui ont été cachées, sauvées, sauvegardées et par exemple depuis l'année dernière, et le festival tourne autour de compositeurs qui ont échappé à la Shoah pour aller se réfugier aux États-Unis. Et c'est absolument extraordinaire les découvertes qu'on fait de cette tradition musicale. Je ne dirais pas qu'elle est inépuisable, mais on a encore pour des longues années des découvertes et d'émerveillements. Donc tout ça pour vous dire que j'y serai au mois de décembre avec... mon ensemble Hébraïka, qui est un petit ensemble et professionnelle, pour faire notamment quelque chose qu'on ne fait pratiquement jamais, enfin en Europe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ça, les psaumes 130, Mima Makim, qui s'est traduit en latin par De Profundis, qui a été écrite par Arnold Schoenberg à la fin de sa vie, et juste un an avant de mourir, et qui est une œuvre dodécaphonique. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot barbare, qui est très bien pour les mots croisés. Et on découvre comme ça des choses absolument extraordinaires qui ont un rapport très étroit avec la Kabbale, avec tout l'art des nombres, et qui est dans la mystique juive. Et moi-même, je découvre au jour le jour ces joyaux de notre trésor. La musique juive que nous sommes en train de vous servir pour que vous puissiez aussi avoir une approche plus facile et découvrir petit à petit.